Il est 8h, soyez les bienvenus.
C'est la vie qui s'arrête, c'est encore la vie, alors que nous sommes touchés que par quelques cas. C'est inadmissible. C'est la mort d'un village.
Un village de 2 millions d'habitants, l'agglomération d'Aix-Marseille et ses 92 communes, privées de bars et de restaurants dès samedi. Sidération dans toute la métropole et coup de gueule des élus. La Guadeloupe, l'autre territoire en alerte maximale, son hôpital frise la saturation. À Lille, Toulouse, Nice et Paris, les rassemblements de plus de 1000 personnes bientôt interdits. Que va faire Roland Garros avec sa jauge à 5000 spectateurs? Question en direct à Guy Forget dans ce journal. Au procès des attentats de janvier 2015, après le récit des horreurs, les interrogations aujourd'hui sur les failles des services de renseignement. Et puis...
Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux.
On se souviendra toujours de son bal perdu. Son nom, c'était Juliette Gréco. On l'entendra, elle qui avait chanté des chansons de tant de grands artistes du XXe siècle.
Fermeture, appel au télétravail, nouvelles restrictions. Comment les PME vont-elles traverser cette nouvelle phase de lutte contre l'épidémie? À 8h15, François Asselin, président de la CPME, au micro de Sonia Mabrouk. Soyez les bienvenus sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
La couleur rouge ne suffisait plus, il en fallait un dégradé. Du plus pâle au rouge sombre, celui de l'alerte maximale pour reprendre la nouvelle appellation des autorités. Conséquence de ce nouvel échelon sanitaire, fermeture de tous les établissements recevant du public, sauf si un protocole strict est déjà en place, et fermeture totale des bars et des restaurants dès samedi.
Bonjour Nathalie Chevance.
Bonjour François.
Correspondante d'Europe 1 à Marseille, où les annonces du ministre de la Santé faites hier soir depuis Paris sont vécues comme un coup de massue.
Ah oui, grosse colère, hein, pour résumer le sentiment général. La punition titre à la une la Provence, et c'est bien ce qui est ressenti dans ce bar de quartier où je me trouve. Christophe, serveur au New Look.
C'est incompréhensible, incompréhensible. Ils vont tuer beaucoup de commerces. Pourquoi ils nous obligent à fermer des restaurants et laisser ouverts des métros, des tramways, des bus, alors qu'il y a beaucoup plus de contacts? On pense qu'on essaie de tuer Marseille.
Et les réactions politiques sont quasi unanimes, parfois très sèches. Véran, ferme-la, dit la maire d'Aix-en-Provence. Le gouvernement tape sur l'économie locale, c'est ce qu'il ne fallait pas faire. C'est injuste, inadapté, juge le président de la région, Renaud Muselier. Et surtout pas de cette manière, surenchérit la ville de Marseille, sans concertation. Samia Ghali, deuxième adjointe.
À chaque fois que le ministre de la Santé va parler maintenant, il va faire une conférence de presse, on va trembler, en se disant qu'est-ce qu'il va nous mettre sur la tête encore une fois de plus. Et de manière unilatérale, sans même discuter. Les Marseillais sont victimes finalement de décisions politiques que personne ne peut comprendre. À un moment, ça suffit, trop c'est trop.
Car pour la mairie, la situation sanitaire ne justifie pas de telles mesures. Les dépistages massifs et les distributions de masques gratuits par milliers commencent à porter leurs fruits. Incompréhension aussi dans les petites communes où l'on dénonce un quasi-reconfinement. Georges Christiani, président des maires des Bouches-du-Rhône.
C'est la vie qui s'arrête, c'est encore la vie, alors que nous sommes touchés que par quelques cas. De façon sporadique, c'est encore une décision la plus jacobine qui soit. C'est inadmissible. C'est la mort d'un village.
Et des élus qui attendent maintenant des compensations financières de l'État pour que l'économie locale ne sombre pas.
Nathalie Chevance en direct de Marseille pour Europe 1. Alors, les critères pris en compte sont le nombre de nouveaux cas rapportés à la population, ainsi que ce taux d'incidence parmi les personnes âgées, et enfin la proportion de patients Covid en réanimation. Ces statistiques font basculer une autre région en zone d'alerte maximale, c'est la Guadeloupe.
On y avait recensé, compté 26 morts depuis le début de l'épidémie. 16 en une semaine à présent. Et à l'hôpital de Pointe-à-Pitre, on voit affluer les malades, Mathieu Bock.
Pour accueillir ces nouveaux malades, les équipes médicales ont dû transformer la cantine de l'hôpital. À la place du self et des tables, des lits médicalisés ont été installés. Le service de réanimation est saturé, explique son chef Marc Valette.
Nous avons reçu au total 94 patients en réanimation depuis un mois, alors que sur la première crise, nous avions reçu 31 patients sur deux mois et demi. Donc en un mois, nous avons reçu trois fois plus de patients que sur la première crise. Et le nombre de patients présents en même temps en réanimation est monté à 28. Contre 20 au maximum lors de la première crise.
Sur l'île, le nombre de contaminations explose. Un quart des tests sont positifs, quatre fois plus que la moyenne nationale. Plus de 1000 cas ont été recensés en une semaine, contre 3000 depuis le mois de mars. Les équipes sont à bout. L'État a donc envoyé 36 personnels soignants de la réserve sanitaire en renfort, comme Pierrick Tristan, un infirmier venu de Perpignan.
Ils sont presque en burn-out avec le travail qu'ils effectuent, et venir les remplacer les soulage énormément. Ça me paraissait évident de venir leur donner un coup de main, aider cette population-là qui en a grand besoin.
Mais ces renforts ne sont pas suffisants. L'armée va donc envoyer des médecins et des infirmiers. Sur place, on espère qu'ils seront au moins une cinquantaine à venir le plus vite possible.
Alors en dessous d'Aix et Marseille et de la Guadeloupe, le deuxième échelon est celui de l'alerte renforcée. 11 métropoles concernées, Lyon, Nice, Toulouse, Lille ou encore Paris. Les bars devront fermer au plus tard à 22h à partir de lundi, horaire à affiner par le préfet. Fermeture totale par ailleurs des salles de sport et des gymnases et limitation des grands événements à 1000 personnes.
Bonjour Guy Forget.
Bonjour.
Directeur du tournoi de tennis de Roland-Garros en direct avec nous ce matin. Ce que l'on vient d'entendre, ça vous force à réduire le nombre de spectateurs pour la troisième fois de suite ou est-ce qu'on va directement au huis clos ?
Écoutez, vous savez, on travaille depuis maintenant de nombreuses semaines, j'ai même depuis plusieurs mois, en responsabilité avec les services de l'État, justement pour réduire notre jauge. Nous étions à 20 000 places, puis nous sommes passés à 11 500, et puis finalement, on était arrivé à une jauge de 5 000 places. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui est étonnant, c'est de nous rendre compte qu'on est probablement l'événement sportif aujourd'hui le plus populaire et à la porte internationale probablement la plus importante dans le monde. Et qu'aujourd'hui, nous sommes sur un site aujourd'hui de 12 hectares, donc c'est pas carrément 15 terrains de football, et on doit pouvoir s'adapter aujourd'hui et proposer à une minorité de personnes de venir à Roland-Garros. Nous avons déjà plus de 700 joueurs qui sont arrivés, les qualifications ont commencé. Et aujourd'hui, être dans ce flou, c'est vrai que c'est extrêmement frustrant pour nous.
Donc vous ne savez pas encore si on réduit encore ou si on reste à 5 000.
Bah écoutez, aujourd'hui, nous attendons. Nous avons toujours travaillé en concertation avec les services de l'État et aujourd'hui, nous n'avons pas de nouvelles. Donc, on a reçu.
Vous demandez à pouvoir rester à 5 000, Guy Forget.
Mais écoutez, vous imaginez aujourd'hui qu'on est quand même sur un site qui est immense. Nous sommes dans plein air. C'est beaucoup plus sûr d'être à Roland-Garros avec un masque en regardant des matchs de sport sur 12 hectares que de prendre le métro, d'aller au supermarché ou d'aller dans un amphithéâtre à la faculté. Donc aujourd'hui, on doit pouvoir s'adapter et proposer à une minorité de personnes de venir à Roland-Garros et de faire vivre ce tournoi qui doit être notre fierté avant tout.
Guy Forget en direct ce matin, directeur du tournoi de Roland-Garros dont Europe 1 est partenaire, je le rappelle. Merci Guy Forget d'avoir été ce matin l'invité du journal de 8h.
Enfin, le dernier des trois nouveaux échelons s'appelle la zone d'alerte, 69 départements concernés. Interdiction des rassemblements privés de plus de 30 personnes à partir de lundi, dont les fêtes de mariage. Sur Europe 1, il y a quelques minutes, le professeur Rémi Salomon, président de la commission médicale des hôpitaux de Paris, le disait. Il suffirait d'un petit effort pour éviter la saturation des hôpitaux. Il était votre invité, Mathieu, tout à l'heure à 7h40.
On vous en parlait hier. Le doublement du congé paternité. Ce sera 28 jours dès l'été prochain.
4 semaines donc, mais certaines entreprises vont déjà beaucoup plus loin aujourd'hui. Carole Ferry les a contactées.
Chez L'Oréal, le délai est fixé à 6 semaines. En un an et demi, 200 papas en ont profité. Parmi eux, Paul, 36 ans. Le dispositif n'existait pas à la naissance de son premier fils. Pour le second, il a beaucoup plus vite créé un lien avec son bébé.
Avant le congé, je ne savais pas vraiment identifier le sens de ses pleurs. C'est-à-dire que quand il pleurait, il fallait que je me retourne vers ma femme pour savoir s'il avait faim, s'il avait mal au ventre, s'il était fatigué. Après 3 semaines non-stop avec lui, je crois que j'avais un peu plus de facilité pour décrypter le sens de ses pleurs.
Aviva a été l'une des premières entreprises en France à proposer 10 semaines, c'était il y a 3 ans. Au départ, 81% des pères prenaient ce congé, désormais ils sont 95%. Les mentalités ont clairement évolué selon la directrice du bien-être au travail, Sylvie Chartier.
Ça devient naturel dans l'entreprise. Ça va choquer personne de se dire bah, je vais m'absenter pour être présent et m'occuper de mon enfant, participer à son intégration à la crèche et que c'est plus un sujet féminin, c'est un sujet de parents.
Facebook France propose même jusqu'à 4 mois, mais le record revient à Netflix. Les 60 salariés français peuvent prendre jusqu'à 1 an de congé parental rémunéré.
L'actualité à l'étranger, en Algérie, où l'on suit le sort du journaliste Khaled Drareni, ancien correspondant d'Europe 1, condamné en appel à 2 ans de prison pour atteinte à l'unité nationale. Ses avocats annoncent un pourvoi en cassation.
Le 7-9, Mathieu Béliard.
8h11 sur Europe 1, la suite du journal, François Geffrier.
Une nouvelle phase du procès des attentats de janvier 2015. Des enquêteurs vont venir aujourd'hui expliquer le parcours des 3 terroristes et tous les signes qui ont alerté les services de renseignement. Chloé Triomphe, ces services qui avaient pourtant cessé de surveiller les frères Kouachi.
Oui, fin 2013 pour l'un des frères Kouachi et à l'été 2014 pour le second, les écoutes téléphoniques ont pris fin. Mi-2014, c'est à peine 6 mois avant les attentats. Pour justifier ce que certains considéraient déjà comme un raté, la place Beauvau avait fait savoir à l'époque que rien ne laissait penser qu'il préparait un attentat, rien qui justifiait en tout cas une surveillance physique. Et pourtant, les frères Kouachi avaient quelques années plus tôt fait figure de cibles prioritaires des services, notamment pour leur lien étroit avec tout ce que le djihadisme francophone compte de plus dangereux, Jamel Begal, vétéran du GIA algérien, proche d'Al-Qaïda, mais aussi Peter Sherif, devenu depuis un cadre d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Quant à Amedi Coulibaly, dont la connexion avait pourtant été établie avec les frères Kouachi et leur environnement, il avait tout simplement été classé dans la catégorie des délinquants de droit commun.
Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1.
Et puis ce matin, nous voulions nous bercer de quelques phrases et de quelques notes.
Ne vous déplaise en dansant la javanaise.
Juliette Gréco, qui s'est éteinte hier à 93 ans, et cette javanaise écrite et composée pour elle par Serge Gainsbourg, une chanson à l'image de tous ses titres, dont elle fut l'interprète des chansons offertes par d'immenses artistes de son temps, comme elle le racontait au micro de Wendy Bouchard.
Dans chaque chanson, il y a un morceau de moi, ou grand ou petit. Je suis la servante de mes seigneurs. Et mes seigneurs, ce sont les écrivains, ce sont les musiciens, ce sont les poètes. Ce sont des gens pour lesquels j'ai de l'amour, de l'admiration. Je vis dans la ferveur et dans l'amour de ce que je fais et de ces gens-là.
Si tu t'imagines. Un poème de Raymond Queneau qui avait été remis à Juliette Gréco par Jean-Paul Sartre et mis en musique par Joseph Cosma. Que des grands noms, je vous l'avais dit.
Saison des amours.
Merci François Geffrier, quel bel hommage à Juliette Gréco. Merci François Geffrier, 8h13 sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.